et Tchoumo Football Club.
C'est ensemble qu'on y arrive.
Rira Ayoli.
Radio Tchoumo, le son du Wai, Ayoli.
Et aïe à tous et bienvenue pour cette nouvelle année sur Radio Tchourmo. Bonne année tout le monde.
Bonne année.
Bonne année.
Aïe à tous. Aïe aïe. Voilà, donc bienvenue de retour. On est reparti pour une nouvelle année sur Radio Tchourmo. La première, ça a été un grand succès. Merci pour tous les retours de tous les gens qui nous ont félicité pour ce qu'on faisait. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc on est reparti pour une nouvelle année. On espère que ça va toujours autant vous plaire. Et Ayoli, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus?
Ayoli.
Voilà.
Bah, je sais pas, j'attends, tu as un truc à rajouter sur la nouvelle année?
Non, j'ai rien à rajouter sur la nouvelle année. Je ne souhaite pas la bonne année.
Voilà, ben moi je la souhaite.
Voilà, toujours dans la bonne humeur.
Voilà, moi je souhaite la bonne année à tous les tchourmes, toutes les tchourmettes. Et puis ceux qui seront tchourmos, ceux qui seront tchourmettes un jour, peut-être. Voilà, alors pour cette émission, on continue notre tour de France et j'ai même envie de dire notre tour du monde des tchourmos. On aura Robiche du Mans avec nous qui va nous parler un petit peu de sa section rillette, comme on l'appelle entre nous. Et oui, il nous entend déjà. On va vous présenter ensuite, pour notre chronique lecture du mois, le livre Marseille cuisine le monde. Et enfin, on terminera cette émission avec une petite chronique histoire sur la tradition des galettes des rois en Provence. D'ailleurs, je ne devrais pas dire galettes des rois, mais vous le saurez plus tard quand vous nous écouterez. Voilà.
Bonsoir, Robiche.
Et bonsoir, frérot, ça va?
Salut à tous.
Eh ben, bonne année, au fait, hein. Bonne année,
meilleurs vœux à tous, hein.
Eh ouais.
Comment on dit au pays de la rillette? Nous, ici, on se souhaite le bon boudin, la bonne année, tout ça. Comment tu dis chez toi?
Ouais, je sais pas, moi, ce qu'on dit, que la rillette soit bonne, qu'on reste toujours en fête, de bonne humeur, avec de bonnes gambettes.
que de rimes pour cette nouvelle année, dis donc.
Bah moi, je viens d'être frappé par le virus des rues.
Ah!
La grosse frappe. C'était pas la grippe, c'était pas le Covid, mais touché pendant 4 jours avec 42 fièvres.
Ah ouais, voilà. Pas mal.
Ouais, bah voilà, ça te chatouille la gorge.
Ah mais c'est pour ça que tu as une belle voix suave et douce.
J'ai la voix de Rambo.
Et ben alors, on va commencer, frérot. Alors avant de rentrer un peu plus, est-ce que tu peux te présenter toi et présenter ton rapport assez large à la tchoum au sens large du terme?
Ah, le sens large du terme. Ah, la tchoum. Bah la tchoum, ça fait comment dire?
Vaste sujet.
Et ouais. C'est quoi le début? C'est quoi le début pour toi?
C'est quoi le début? Bah, le début, c'était ma grande ville, elle est malade, mais qu'elle est bleue. Une bande de potes qui écoutaient du Massilia, qui ont fini par rencontrer Massilia et qui sont partis à l'aventure dans le Gers chez Fernando. Par un temps épouvantable, les pieds dans la boue, et qu'on fait le premier rassemblement de la tourmo. Et quand ils sont revenus, on s'est retrouvés à l'apéro et on a vu les photos. Et ils m'ont fait part de leur rencontre, de leur petit road trip. Et là, bah, ça a fait boum dans ma tête en fait.
Et là, on est quelle année à peu près là?
Alors ça, c'est un gros problème chez moi, c'est que moi, je suis physionomiste, j'ai tout dans la tête, mais au niveau des années...
Ah, tu es comme moi, tu es team poisson rouge.
On est entre 98, je pense, et 2001, je sais pas trop.
D'accord.
Ouais.
Mais, et alors moi, je suis un peu...
Moi, je sais que j'ai eu 20 ans en 2001, grâce à Pierre Bachelet, ça, c'est d'accord. Et je sais que j'ai fait le deuxième...
On se retrouve d'ailleurs, après...
de la tourbe. Mais alors, en quelle année? Alors là, je sais plus.
Ouais, fin 90, début 2000, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais, donc, parce que toi, tu es du Mans. Donc, c'est populaire, hein, Massilia, au Mans?
Alors, c'est populaire, ouais, c'est populaire. En fait, il y a un petit noyau qui perdure. Hein.
D'accord.
Et puis, bah, moi, de mon côté, via mes actions aussi avec les potes aussi d'ici, bah, je me mets un petit peu à jouer du match via, tu vois, je fais un peu de sélection.
Okay.
Là, on a joué il y a 15 jours là, pour on a décidé en fait de faire bouger les choses et de se prouver qu'on pouvait sur un message lancé par Coupanadem rassembler les gens et faire une soirée caritative pour Mayotte.
Okay.
Et okay. Bah, j'ai mixé une petite demi-heure de son marseillais, tu vois. Voilà.
D'accord. Et ça parle quand même, hein. Les gens connaissent ou il n'y a que les vieux qui réagissent ?
Eh bien, il y a tout le monde, en fait. c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu as les anciens qui connaissent Massilia et tu as les jeunes aussi qui connaissent aussi Massilia.
C'est cool, ça.
C'est ouais, ça a beau avoir 40 ans en fait, bah, c'est 40 ans même pour des jeunes qui n'ont pas connu le début de Massilia, qui connaissent maintenant Massilia via aussi les réseaux,
ouais.
Il y a aussi la facilité d'avoir accès à la musique maintenant,
mm-hmm.
qui était moins facile auparavant. Quoi. Avant on se passait des cassettes, c'était plus compliqué, quoi.
Yes. Et donc, toi, tu nous as parlé donc, de découverte de ce milieu par le biais de Massilia, et ça a été le cas, je pense, pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, c'est ce qui ressort dans tous les témoignages qu'on a eus. Mais ensuite, comment ça s'est passé, toi, découverte vraiment de Tchourmo en tant qu'association qui fait des actions? Je sais que toi et moi, on s'est vu aux courses de baignoire, on s'est vu à plein d'occasions différentes. Donc, comment, toi, ensuite, tu es passé de amateur de Massilia à collègue avec ce milieu-là?
Eh bien, en fait, c'est par quel bout je vais prendre les choses, en fait. Moi, si tu veux, dans ma jeunesse, j'ai eu une jeunesse assez speed, assez mouvementée, où j'étais un peu dispersé à gauche, à droite. Même mon père, il me disait, mais attends, tu peux pas aller à cette soirée-là alors que t'as déjà dit oui à ton autre collègue et tu as déjà dit oui à l'autre, mais tu vas pas pouvoir tout faire. Et en fait, j'avais des fréquentations qui étaient bien et des fréquentations qui étaient moins bien. et grâce à un moment donné, à un homme qu'on le connaît tous, qui est parti un peu rapide, Lux V,
ouais.
Ça a tout changé. Je vais t'expliquer, je vais essayer de faire vite là-dessus. En gros, je suis d'astreinte avec mon taf. C'est la fête de la musique. Les potes, ils partent à côté de chez moi au théâtre, je crois que c'est du Val-de-Loire, à Saumur. Concert sur le parvis du théâtre, énormément de monde.
Mm-hmm.
On prend l'apéro et tout. Et les potes, ils partent. Et au moment de partir, je dis, les gars, moi, je suis d'astreinte ou pas. Je peux pas manquer ça, quoi. Donc, je pars avec vous. Bien entendu, l'astreinte sonne pendant le trajet. C'est pas grave. On arrive sur place. Je fais la méthode du jeune qui est un peu stressé parce qu'il débute dans le travail et puis bah voilà, il est d'astreinte, il est pas sur place. Donc je mets mon téléphone dans une chaussette. Je dis, les gars, on prend l'apéro. Donc apéro parking de l'époque. Et je tape sur le muret mon téléphone d'astreinte pendant un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Je dis, là maintenant, les gars, la soirée elle est pour nous. Voilà. Et là, on avance dans la foule et il y a le portable de Pilou qui sonne. C'est Lux V qui appelle et qui dit « Ah, Mino, vous êtes où ?» Et là, je dis « C'est qui ?» Il me dit c'est Lux V, tu sais, celui que j'ai rencontré à Tchourmeland. C'est l'ambianceur de scène, là. C'est Lux V. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Attends, c'est quoi le délire ? Et on avance dans la foule et on voit arriver Lux V. Il dit, allez, Mino, vous avez fait la route et tout. Il avait deux bouteilles de rouge champigny avec lui. Et les gars, c'est pour vous. Et ce soir, on va passer une méchante soirée. Et vous allez servir le passage à sur scène.
Incroyable. Voilà. Trop fou.
Et là, bah, la soirée, elle était. Moi, j'avais des paillettes dans les yeux. Un peu d'alcool aussi. Un peu de friconfiture aussi à l'époque. Maintenant, je suis moins. Je vais boire quasi plus. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis en fait j'ai découvert en tant qu'enfant l'univers de Massilia au moment de cette fête de la musique.
Mm-hmm.
Et donc voilà, monter sur scène, servir le pastaga, mais j'étais comme un. je suis passé de l'écoute à la réalité d'un coup. Ouais. Bah, c'était féerique pour moi, quoi.
Ah ouais, vraiment, non,
voilà.
Ah, c'est une belle histoire que tu racontes. Hein,
et puis il y avait la fin de soirée. La fin de soirée, ouais. Bah, il y avait un catering d'organiser en haut avec soirée after pour les artistes et tout ça. Et puis nous, bande de cons, Luc V nous dit, ah, les gars, vous restez en bas de l'escalier, là. Gary rejoint et tout. Et puis il me dit, vous finissez votre caps. Et puis voilà, quoi. Donc on s'est mis à faire un caps et tout ça. Et puis à un moment donné, la sécurité, elle a voulu nous virer. Qui est redescendu, Luc V et Gary, pour le bilan, les gars, ça c'est nos minots, vous ne touchez pas, ils viennent avec nous. Donc on a passé la soirée là-bas, on est rentré après, parce qu'on avait un Sam à l'époque, voilà, qui nous a ramené, voilà.
Eh bien, et le lendemain matin,
j'ai
arrivé
fribouillé au boulot, avec une astreinte pas faite,
mon chef
qui m'a dit, mais c'est plus d'alcool, j'ai dit, bah oui, ça peut être à l'astreinte. Bah non, mon téléphone il marche plus. Il a pris le téléphone. Il me dit bah il marche plus. Bah il marche pas. Donc moi je peux pas te dire. Il dit bah tu vas te planquer dans une chaufferie parce que j'étais technicien chauffagiste, c'est toujours le cas. Et je vais plus te voir de la journée. Voilà.
Mais bon, ça valait le coup.
Ça valait le coup. Ça valait le coup.
Ah ouais, non, c'est une super histoire là, franchement, que tu nous as raconté. Une
ouais, c'est magique. Moi, je voulais rajouter, en fait, c'est un bel hommage que tu rends à Luc V, parce que à chaque fois qu'on entend parler de lui, c'est toujours dans le truc comme ça, la générosité, la gentillesse qu'il avait à accueillir les gens comme ils étaient, tout ça, faire la fête avec tout le monde et tout ça, quoi. Bah, c'était une belle histoire.
Ah ouais, non, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et moi, ce que je trouve fou quand même, c'est que parce que bon, maintenant, ça fait pas mal d'émissions de radio qu'on a fait, donc j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de Luc au micro. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve fou quand même à chaque fois dans les histoires de Luc, c'est que oui, ça part de free confiture, oui, ça part de on parle apéro et on fait un peu n'importe quoi, mais c'est toujours en fait des histoires humaines, des histoires de bah viens, ramène-toi, bah tu bois un coup avec nous, bah qui tu es, bah tu es sympa, et bien avec nous. Il y a une ouverture, enfin moi, que je trouve absolument magnifique.
Bah en fait, il y avait pas de jugement, en fait, il y avait pas de savoir.
C'est ça.
Luc V, en fait, il était à la hauteur de ce qu'on essaie de perdurer, et ce qui perdure, en fait, nos yeux sont la vision de notre cœur, en fait, si tu veux.
Tout à fait.
Là-dessus, c'est que bah, lui, en fait, il était fondateur de ça, en fait.
Tout à fait.
C'était un rassembleur, et qui était un joyeux luron et tout, mais derrière ça, c'était quelqu'un qui était très intelligent.
Ouais.
Et qui savait tapoter les gens, leur donner de la joie. Il a réussi, tu vois, par exemple, moi, à me faire changer de cap, tu vois, par exemple.
Ouais.
J'aurais peut-être pas été la personne que je suis maintenant si j'avais pas croisé l'idée, entre guillemets, toute la team de Massilia, mais.
Particulièrement, après,
la team de Massilia, c'est autre chose, parce qu'il y a eu des protagonistes derrière, tu vois, il y a eu, moi, après, les potes, ils m'ont dit, bah, écoute, on t'emmène à Tourmaland. Et, tu vas voir ce que c'est. Et donc, Tourmaland, tu vois, c'était Fabio Troubadour, c'était les policiers, tu vois, et quand on est arrivé là-bas, oui, effectivement, quand je suis arrivé dans le Gers, là, entre deux fins de colline, et, que tu vois qu'en fait, bah, il y a quasi rien, sauf un déjanté que je t'appelais Stamando, avec son grand manteau, son cheval, qui prenait pour un pirate, pour un tibutier, toi, pour voilà, c'était le gardien de sa nature, de cette vallée verte, avec des morceaux de bois, des cabanes. Et puis toi, t'arrives avec ta seule détente, là-dedans, dans le temps, et puis, et puis t'as d'autres voitures qui arrivent, et puis bah tu découvres ça c'est Diogan, ça c'est ah là bah ça c'est Djali, ah bah ça c'est ah bah c'est la tournée 500, bah ça c'est ah bah ouais c'est Jean-Louis, ah bah d'accord, yeah. Ah bah ça c'est Zagran, ah bah oui, et puis tu continues, et puis ah bah ça c'est Papi Ninja, ah là bah il y a le Kipping, en fait, ouais. Ah bah il y a tout le monde. Eh ben, on se retrouve tous avec notre baluchon, notre brosse à dents, notre dentifrice et notre pilon dans notre, et puis la rillette de côté, et puis la morceau de pain, et puis
À chaque fois que je t'ai croisé, tu avais ton pot de rillette avec toi.
Toujours, toujours.
C'est une institution. C'est une institution.
Ah non, mais toujours. Hein. Moi, je me souviens de je me souviens d'apéro au baguier ou au limite. On t'attendait, mais juste pour les rillettes, on t'attendait pas toi. Hein.
Écoute. D'ailleurs, le rassemblement où est venu, le premier rassemblement où est venu, où sont venus les Camino Boulégan en tant que section, c'était le rassemblement 2014. Chaque section doit offrir l'apéro. C'est une tradition. C'est vrai. Et ben, la première fois que les Camino Boulégan ont payé l'apéro, eh ben, c'était en fusion avec la section rillettes.
Et ben voilà, c'est magnifique.
Voilà. C'était un beau mariage.
Je m'en souviens très bien. celle-ci. À Pont-de-Barré.
Tout à fait.
Alors frérot, on te retrouve juste après une petite coupure musicale. On se retrouve juste après Papeji, Ragamuffin Vagabond.
Aïoli.
Aïoli.
Hoffman. Mais qu'est froid, c'est pas possible. Il finira jamais cet hiver. T'es, je me casse, je m'en verrai. Quand je n'arrive plus à supporter l'hiver et ses minimales, je me mets soudain à rêver à des chaleurs tropicales. Je sors le petit carnet de mes relations musicales et je me fais inviter à chanter sous d'autres étoiles. Va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va donc au soleil, passer des jours meilleurs. Bim! Va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va faire un tour loin de la grisaille et des râleurs. Parce que quand c'est trop, quand c'est beaucoup trop, quand ça suffit du froid qui glace tes os, quand tu parais encore plus gros, parce que tu portes tous tes habits sur ton dos, je te dis, va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va donc au soleil, passer des jours meilleurs. Bim! Va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va faire un tour loin de la grisaille et des valeurs. Je te dis, stop le délire, je te dis, faut réagir. Vas-y, fais-toi plaisir, le regret y a pas pire. Je te le dis sans rire, vas-y sans réfléchir. Tu risques de croupir, je crois qu'il vaut mieux partir. Je préfère le bleu du lagon aux neiges de l'Oregon, le soleil à l'horizon qu'un bon feu à la maison. Je préfère le poisson grillé, piment et citron. C'est bon, comme au cabanon. Hey, va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va donc au soleil, passer des jours meilleurs. Bim! Va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va faire un tour loin de la grisaille des râleurs. Bien sûr, Marseille, je l'aime. C'est ma fondamentale. C'est mon blason, mon emblème. Oui, c'est ma capitale. C'est mon bastion, ma Jérusalem. Oui, c'est ma pierre philosophale. Je m'y sens bien, mais le problème, mais c'est l'hiver quand souffle le mistral. Alors je me dis, va voir ailleurs, papi, va voir ailleurs. Va donc au soleil, passer les jours meilleurs. Bim! Va voir ailleurs, papi, va voir ailleurs. Va faire un tour loin de la grisaille et des râleurs. Le son système est chez lui, et ce dans tous les pays. Un peu partout des amis me disent, papé Jali, viens monter notre aïoli. Ici c'est le paradis. Alors j'ai réfléchi et un jour je me suis dit, partout il y a du son, des tas de rythmes très bons. Pour écrire des chansons, j'attendrai pas les moissons. Près du feu dans mes chaussons, ragamuffin vagabond. Je prends l'avion dès les premiers frissons. T'es, va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va donc au soleil, passer les jours meilleurs. Bim! Va voir ailleurs, papé, va voir ailleurs. Va faire un tour loin de la grisaille et des râleurs. Parce que quand c'est trop, quand c'est beaucoup trop, quand ça suffit du froid qui glace tes os, quand tu parais encore plus gros, parce que tu portes tous tes habits sur ton dos. Je te le dis mon ami, fais ton sac illico, carte bleue, passeport, saute dans un taco. Les amis, faites chanter la chambre d'écho, allumez les ampers et branchez le micro. Pour le vocabulaire, j'emmène les dicos. Je file par derrière, je vous le dis franco. Parce que quand c'est trop, quand c'est beaucoup trop, quand ça suffit du froid qui glace tes os, quand tu parais encore plus gros, parce que tu portes tous tes habits sur ton
dos. Yes, on est de retour, toujours sur Radio Tchourmo, sur Radio Galère 88.4 FM. On est toujours en compagnie de Marie-Ange.
Aïoli.
Aïoli. De Chaton.
Aïoli.
et de Robiche au téléphone depuis le grand froid, le grand nord.
Ouais, ouais, c'est ça.
Voilà, là, tu te gèles pas trop ?
Combien il fait chez toi, vas-y ?
Là, il fait moins 2, là.
Oh là là !
Mais tu sais, on a plus souvent les pieds dans l'eau qu'on a froid en ce moment. Donc c'est
ouais, malheureusement, ouais.
Ah là là, ça donne envie, hein, franchement.
On voit le soleil à la limite 3 minutes tous les 4 jours, donc voilà quoi. On se met sous les lumières artificielles pour essayer de trouver un peu d'idées.
Vous faites pas des carences en vitamine D un peu?
N'oublie pas de redescendre un peu, prendre de la vitamine.
Eh ouais.
Bah justement, j'étais en train de penser à ça, c'est que ça fait un. Le compteur, tu vois, moi, mon fils doit avoir 5 ans et demi, je crois que ça doit faire 6 ans que je suis pas descendu.
Mais c'est ça, ouais. Ben c'est ça. Qu'est-ce que tu attends? Parce que moi, quand même, je me souviens d'une époque où tous les étés, en fait, vous descendiez dans votre minivan,
ouais.
Là.
Bah ouais, tout à fait.
C'est ça, là, votre minivan avec 15 000 stickers?
C'est ça, ben, je l'ai toujours, hein. Il est toujours prêt, il a un moteur neuf depuis l'année dernière, maintenant.
Ah ben, si c'est pas un signe que tu dois redescendre, ça, non?
Et Léon, il est fan, donc je conditionne entre guillemets pour descendre dans le sud parce qu'il veut pas prendre l'avion. Et lui, il aime pas ça. Donc il préfère le combi.
Bon,
mais non, mais maintenant je suis papa seul, quoi, on va dire.
Ouais.
Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Je ferai le budget, tout ça, maintenant.
Bien sûr.
Un peu moins de temps. Mais Léon, il est bien là. Il a 5 ans et demi, bientôt 6 ans au mois de mars, et là je peux l'emmener, c'est pas de souci.
Ah bah oui, non, bien sûr.
J'en ai besoin en plus.
Et bah c'est ça, j'imagine.
Et on t'attend, écoute.
Et c'est ça, et en plus
on est en direct de ton gîte, voilà, on te lance l'invitation en direct.
Exactement.
Bah vas-y,
voilà. Ça va. Et puis, et ça me permet aussi de relancer la question. Pour toi justement, quand tu as été sur les routes pendant des années, en fait c'était aussi un moyen pour toi de suivre l'actualité de la Tchourm, de rester proche des collègues qui étaient pas à côté, en fait, puisque tu habites pas à côté. Mais le fait que tu sois aussi présent, c'était aussi un moyen pour toi de garder ce lien aussi fort, quoi.
Bah, tout à fait, en fait. C'est moi ce que m'a apporté la Tchourm, en fait, c'est de voyager dans ce beau pays qu'est la France. Et qu'on connaît malheureusement pas assez, et de découvrir des personnes fabuleuses qui bien sûr ont une ressemblance avec ce que l'on est, parce que il faut quand même avoir une certaine ligne directive, tu vois, dans cette Tchourm. Tu peux pas non plus l'ouvrir à tout le monde, il faut qu'on arrive à trouver des points d'attache, des points d'accroche et tout ça. Mais moi ce que j'aime à travers ça, c'est que si on peut contaminer d'autres, enfin ouvrir les gens à d'autres, les yeux pardon, à d'autres jeunes, sur ce qu'est la réalité de la vie, surtout maintenant avec les écrans, avec tout ce qu'on peut voir en un clic, et on sait même plus de ce qui est réel et irréel et tout ça. En fait, il y a rien de tel que de s'organiser une petite ou une grosse ou une méchante soirée, tu vois, avec des choses simples et essentielles. Mmh. Avec des gens qui te racontent leur parcours, qui te racontent aussi leur galère, leur joie, leur tout ça, et ça te permet de te situer dans cette société, tu vois. Et ça te permet aussi de voyager en écoutant de la musique, en écoutant du son, de chaque terroir, d'échanger des choses culinaires comme la bouffe, tu vois.
Ouais, ouais.
Voilà. Mmh. Moi,
ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu dis, c'est que souvent, par facilité, on a aussi un peu tendance à présenter la Tchourm comme une association presque de quartier. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que déjà, par ton exemple, on n'a pas forcément besoin d'être à côté pour en être membre et y participer. Et en fait, c'est bien plus que simplement des concerts et des repas de quartier, quoi.
Ah bah, bien sûr. Bien sûr, moi, tu vois, par exemple, moi, ce que je fais ici, je le fais jamais seul, en fait, si tu veux.
Mm-hmm.
Il faut toujours un chien fou qui va te lancer des idées complètement farfelues.
On rit parce que le chien fou autour de la table, c'est Chaton.
Ils vont resserrer les taux pour dire attends, là tu vas un peu trop loin et tout ça. Et puis bah, à un moment donné, quand toi t'as des images, quand tu fermes les yeux, t'as déjà les images de ce que tu veux faire et tout ça. Bah, à un moment donné, si t'es réalisable et si t'es faisable, mais tu ne seras jamais tout seul en fait.
Alors c'est vachement drôle en fait ce que tu racontes là, parce que avec Marie-Ange, on s'est regardé immédiatement, directement, on a pensé à Chaton, quoi. Et il a caissé, voilà, tu disais, ouais, tu fermes les yeux, t'as les images de ce que tu veux faire. Il a caissé, oui.
Parce que tu as le même personnage, quoi, tu vois, en face. Et penses que c'est pas possible, ben lui, ouais, il y va, il a l'idée avant, enfin, voilà, quoi. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un peu des fous comme toi, comme Chaton, etc. Parce que sinon, on n'aurait pas fait tout ça, en fait. Hein.
Ouais.
Bah ouais, mais c'est ça, c'est un peu aussi que la tchourme, voilà, nous a donné en fait.
Ouais.
Tu vois, derrière des textes tout fondés de Massilia, il y a des humains, il y a des hommes.
Tout à fait.
Tout n'est pas clair. Tu vois, il y a des prises de bec, il y a plein de choses. Mais quand tu es derrière un track et que tu te laisses bercer par le track et tout ça, bah en fait ça te donne plein d'idées, plein d'envies, plein de voilà. Moi je considère toi par exemple la musique comme une de mes plus belles récompenses émotionnelles, parce que c'est moi qui décide de choisir le track, ce que je vais mettre en fonction de mon état, si je suis heureux, si je suis dans la peine, si je suis matin, et jamais la musique va me juger en fait.
Ouais.
Tu vois? Elle ne juge jamais, en fait. C'est moi qui la prends content, en fait. Et elle me remet doux, elle me donne la patate, ou voilà, quoi. Donc, voilà.
Non, non, franchement, c'est très beau ce que tu dis, et on est vraiment dans l'esprit de Chourme, en fait. Et ça, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et ce que je trouve, en fait, moi, ce que je trouve toujours fou, c'est que là maintenant ça va faire au moins 6-7 émissions qu'on fait ces portraits de Chourme, au moins à peu près.
Ça, c'est génial, ce que vous avez fait, franchement.
C'est ça, et à chaque...
Merci
ouais, franchement.
Bah ouais, franchement, c'est génial. Ça, c'est,
Et à chaque fois, voilà, on a des témoignages similaires, en fait. Et c'est ça que je trouve vachement beau. C'est que les gens, sans se concerter, ils ressentent les mêmes trucs, en fait.
Des gens tellement différents, en fait.
Ouais.
Et en fait, ils vivent la même chose.
C'est ça.
Bah ouais, et c'est pas une secte, hein.
Non, tout à fait.
Non, c'est surtout pas une secte, mais on va pas parler de ça va faire penser au titre de Johnny Hallyday, mais enfin bon, c'est pas trop notre truc musical. Mais nous ce que on voit depuis qu'on fait les émissions, Robiche, et ce que tu dis toi en fait, hein, c'est que souvent la tchoum, elle suscite l'envie. Et elle permet de rien s'interdire. En fait, tu as l'impression que moi franchement, j'avais des idées depuis très longtemps, hein, mais il n'y a que quand j'ai connu la tchourme que je me suis dit, bah ouais, c'est bon, allez, ça va, on va le faire. Voilà.
Il y a
des trucs qu'on n'arrive pas à faire, hein, qui prennent plus de temps, qu'on recule, qu'on revient.
Qui n'ont pas marché.
Qui n'ont pas marché, qu'on rate.
Ouais, ouais.
Mais au moins, on les fait.
Mais regarde, voilà. Rien que l'émission, là. C'est un peu parti sur une idée lancée en AG, et on se retrouve un an après et
on est toujours là.
On est toujours là, et apparemment les gens apprécient, quoi. J'ai l'impression.
Mais franchement ça c'est génial, ça. Ça c'est génial parce que c'est mettre des images dans la tête des novices en fait, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire, ben, en fait, il y a une réelle histoire, il y a un réel engouement, il y a quelque chose de culturel là-dedans, tu vois.
Ouais, je vois très bien.
C'est pas qu'une bande de flibustiers là qui ont décidé de s'accaparer à un endroit, parce que c'était ça de son nom. Moi, franchement, ça, s'il y a bien un truc qui me manque, et je serais prêt à être acteur de ça quand vous voulez. Je me souviens d'être monté dans ce C35 qui était tout maquillé avec de la peinture à gouache et tout, hein. Et c'était le camion de ce fameux Fernando, là, le maître des lieux. Il avait marqué les langues et les cultures sont égales entre elles, comme les citoyens d'une même république, au cul du camion, quoi. Marcel Philippe Castan. Bam. D'accord. Et puis il y a marqué l'IMA imaginée, là. La ligne imaginée, tu vois.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est resté gravé dans la tête, tu vois. Les premiers tchoums en Hollande, c'était vraiment un truc à part, parce qu'en fait, on mangeait tout avec des pirates qu'il y avait au mur, tu vois. C'est un peu le village de David Croquette, tu vois. Et
ouais, mais
ça
c'est très,
après,
très unanime, ce
la Yoli a commencé à monter et tout ça, mais il y avait des temps calmes où tu pouvais te retrouver avec Tati Ninja dans son tipi. T'avais Tatou qui dormait, qui faisait sa sieste à côté de sa petite femme, tout ça, machin. Et là, t'avais un échange culturel, en fait, pendant le temps calme et tout ça.
Ouais.
Chacun, en fait, s'enrichissait de l'un et de l'autre. Et je me rappelle de Tatou qui m'avait dit, avec Robux, ça glisse. Voilà, tu vois, c'était la série au pro à l'époque, tout ça, machin.
Ouais,
et
ouais.
Elle m'avait fait un petit pin, avec Robux, ça glisse et tout. Et dans ma tête, ça avait fait tilt, en fait.
Yes.
Et tu vois, bah, toi, t'es dit, moi, je suis là-bas, il y a maintenant la section Pyrénées, tu vois, on est plus dans le fond, ça va du nord, de l'est à l'ouest. Bah,
ouais.
Prenons à la limite une personne moteur de chaque entité, entre guillemets,
mm-hmm.
Et recréons en fait ça, un rassemblement, quoi.
Cette nostalgie heureuse de la part de tous les membres qui ont connu cette époque-là dont tu parles.
Bien sûr, en fait.
Et tout le monde, quand tu dis s'il y a un événement emblématique, s'il y a un événement qui devait revenir,
c'est le rassemblement,
etc.,
quoi.
C'est le rassemblement, mais on sait tous en même temps combien c'est compliqué à remettre en place. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça fait assez l'unanimité.
De toute façon, ça ne sera jamais comme avant, ça ne sera jamais pareil.
Ouais, mais je sais pas si c'est forcément une bonne chose d'essayer de refaire comme avant. Je pense que
ce qui est la force
aussi, c'est que la force aussi, moi je trouve, de la tchourne, c'est que on est au courant aussi de ceux qui sont passés avant nous, mais en même temps on n'essaye pas de vivre dans le passé, seulement dans les souvenirs.
Ah bah complètement.
Voilà.
Complètement.
Moi je le vois plus comme un héritage que tu fais vivre des valeurs, en fait, tu vois.
Tout à fait.
C'est ça. C'est ça, exactement, c'est des valeurs.
Exactement.
C'est valeurs, de la transmission,
mais...
en fait.
Mais ouais, je te cache pas que cette question du rassemblement, on nous l'a fait remonter plusieurs fois, et pas mal de fois, ouais.
Mmh. Ah ben non, c'est la notion, il y avait un tantinet de nostalgie, elle se trouve là.
C'est ça, clairement.
Après, il y a plein de choses qui se font, tu vois, tous les ans, vous, les Camino, la Ciotat, tout ça, voilà, il y a plein de choses qui se font, donc si tu veux rencontrer les gens, à toi de te bouger à l'endroit où... Ou ce, tu vois, là, comme là, avec Tatou, avec le Massif Arrivée Club et tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Si tu veux voir les gens, tu peux aller les voir.
Tout à fait.
Mais de se retrouver dans un moment où...
un
moment
tournant,
et ça, c'est très important chez Lutz, comme beaucoup, tu vois.
Mm.
Il y a eu... c'est que, en fait, bah... Tu poses tout, quoi. Ton côté artiste, il est pour certains, ben voilà, il est plus là, tu vois, et ainsi de suite. Et là, tu te retrouves dans une colonie intellectuelle de farniente et de joie de vivre. Et après,
pour le petit parallèle, on a connu nous, un petit peu ça quand on a fait les quelques camboulégans qu'on faisait à une échelle beaucoup plus petite. Mais c'était un peu cet esprit-là, tu vois, de la colonie pour adultes où, voilà, plus rien n'était grave, le temps s'arrêtait, le temps d'un week-end et tout, voilà.
Pourquoi pour adultes?
Bah parce que tu...
Parce qu'on est des enfants aussi.
Parce qu'on est à poil.
Il y avait des minots, non, mais il y avait des minots, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'était vraiment l'esprit colo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais ne me contredis pas, s'il te plaît, chaton.
Non, ça va, j'ai rien dit.
C'est ça qui est intéressant, c'est de garder notre côté un peu enfant, tu vois, qui reste, de le remettre sur le devant de la scène, tu vois.
Yes, yes.
Ouais.
Et alors, on a dit en début d'émission, un peu en plaisantant, la section rillette.
Ouais.
Alors, c'est quoi la section rillette?
La section rillette, elle a jamais été fondée, proprement dit, en fait.
Et ouais, je sais.
Elle a jamais été fondée. C'est-à-dire qu'on a patiné en Saint-Loup, tu vois. On a patiné en Saint-Loup. Moi, j'ai voulu réellement la créer. Et puis, il y a un collectif mm-hmm. mais qui n'a pas envie de se prendre la tête à travers une asso, quoi, une structure. Quoi.
Ouais, je vois ce que voilà. tu veux dire.
Voilà. S'il y a moyen de faire quelque chose, soit moi, je vais essayer de faire venir tatouer avec le maquillard et les clubs et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est un peu galère là, à faire bouger un peu le cucu là, des têtes pensantes là, qui des loueurs de salles et tout. Là. Enfin, bon, bref, ça c'est autre chose. Mais nous, on est là. En fait, il y a un petit collectif de bons vivants qui est là. Et s'il y a quelque chose d'organisé, ouais, on est là. Quoi. On arrive à se déplacer en concert déjà.
Ouais. Elle existe de manière informelle, on va dire, la section Riette.
Ah, bah, elle existe. Il y a même eu une chanson, il faudrait que je la retrouve dans mes papiers, des Riette Girls.
Oh là là.
Ouais, il y a eu atelier écriture à Tchourmoland et les Riette Girls avaient chanté avec Tati Ninja une chanson. Peut-être que.
Est-ce qu'il y a un enregistrement
de Ah ouais, il faut que tu retrouves l'enregistrement et que tu nous le donnes. Hein.
Alors, il y avait un enregistrement. Alors, moi, j'avais fait le pirate, tu vois, le flibustier. j'avais les premiers lecteurs mini disques là, tu vois, et j'avais mis mes écouteurs en guise de micro sur les oreilles et j'avais enregistré tout ça. Seulement le mini disque, je me suis fait voler le mini disque et le mini disque calé avec, quoi.
Ah là là,
donc j'ai plus la trace de ça.
Ah là là.
Bon, le voleur, si tu nous entends.
Rends
le disque.
Au moins les rillettes.
Au moins les disques.
Je pense sincèrement que je peux retrouver
les paroles.
Le texte des rillettes. Ouais.
On le réenregistrera quand tu redescendras.
Et ça marche. Avec les rillettes girls. Voilà.
Allez, avec plaisir.
Allez.
Ouais. On remonte le groupe.
C'est ça, voilà, avec les rillettes girls.
Ouais, c'est ça.
Écoute, quelque chose à ajouter, les copains?
Non, enfin, moi, si j'avais un truc à rajouter sur tout ce que tu as dit, Robich, c'est que là, on est en train avec deux collègues qui font partie des camions Boulégan. On a monté, quand on disait tout à l'heure que ça suscite l'envie, on a monté un truc qui fait des documentaires. On fait un documentaire actuellement sur le Balthazar.
Yes.
Et Luxby, c'est quelqu'un de très important. Ça a été quelqu'un de très important dans la vie de beaucoup de monde.
Complètement.
Voilà. Et c'était quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui suscitait l'envie aussi, qui a donné l'envie à d'autres, à des gens de faire des choses, à faire.
Oh, Johnny sort de ce.
Ouais, coup. Mais au lieu de parler de Johnny, je vais reprendre Jacques Grand dans le documentaire sur les camions Boulégan, qui dit qui parle des camions dans ce sens-là. Et voilà, il suscitait l'envie et franchement, c'était quelqu'un de très important. Et donc, voilà, c'est sur tout ce que tu as dit, ça me fait penser à ça. Et écoute, moi je pense, nous aussi, les Camions Boulégan, on a voulu au départ faire ça de manière informelle. Et on s'est vite retrouvé à ce qu'on pouvait pas. Il y avait des trucs où on nous demandait d'avoir. C'est pour ça qu'on s'est monté en association. Mais après, ça, c'est pas grave. Voilà,
après, c'est rien, ça.
Ouais, voilà, non, exactement. Mais après, l'important, c'est que l'état d'esprit se partage de partout avec le plus grand nombre. Et voilà, toi, tu en es la preuve vivante.
Aïe.
Complètement. Tu vois, ce qu'on pourrait essayer d'organiser, ça serait un rassemblement de toutes les photos, vu que ça. Un documentaire, essayer de trouver, d'aller chercher des sources, des photos, des.
C'est des archives, il doit y en avoir des tonnes en plus. Hein.
Grave, parce que tout le monde a ses archives à soi.
Quand je vois le travail que c'est le Balthazar, je pense que si un jour je fais ne serait-ce qu'un documentaire avec mes collègues sur Massilia Tchourm,
enfin.
J'en ai pour deux ans. Voilà. Déjà pour le Balthazar, c'est déjà chaud alors qu'il a existé que 10 ans. Alors ouais. 30 ans d'histoire, avec des hauts et des bas, hein, mais 30 ans d'histoire.
Là, t'as de la matière, ouais.
Il y a de la matière. Donc, peut-être que ça se fera un jour, hein, ou quelqu'un d'autre le fera, mais en tout cas, c'est sûr que ça serait intéressant, mais ça serait beaucoup de travail.
Yes.
Mais tu vois, c'est souvent dans les tout petits endroits où tout le monde se colle, transpire de sueur, que tout le monde se souvient de. de ces moments-là plutôt que des gros plateaux où t'as, tu vois.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est beaucoup plus enrichissant des moments comme ça, enfin, des endroits comme ça. Et malheureusement, ça se perd, en fait, tu vois.
Tout à fait.
Moi, c'est un truc que j'aurais aimé sur le Mans, tu vois. Et en fait, parce qu'il y a des petits cafons, il y a tout ça. Bon, après, c'est comme chez vous. La gangrène, elle est partout. Maintenant, les gens, ils se tapent et ils se saignent dans les rues pour rien. Donc, en fait, c'est un autre truc, c'est un phénomène de société qui me sidère, tu vois. Mais j'aurais bien aimé me créer un petit endroit, tu vois, où tu proposes un endroit où tu peux faire du sound system, où tu peux faire plein de petits trucs, tu vois. Donc ça, c'est...
Ouais, bah du coup, c'est peut-être ce qu'on va se souhaiter. Alors pour 2025, c'est plein c'est de petits endroits comme ça où on peut créer,
c'est
partager.
Ça. Exactement.
Tout à fait.
Voilà.
Exactement. Frérot, on te remercie grandement.
Ah, franchement, c'était
merci
cool.
À vous.
Ah ouais, c'était super.
Merci beaucoup.
Yes, et merci puis, à toi.
Je ne change rien, je vous aime.
Merci, on t'aime aussi.
Et j'arrive bientôt dans mon gîte.
Ben ouais, oui. Voilà, tu redescends.
Oui, avec plaisir.
Ouais, ça marche.
Et tu n'oublies pas les rillettes.
Allez, Ayoli.
Ayoli.
Ayoli sur toi.
Yes, on remercie le frérot Robiche qui est avec nous au téléphone. Nous, on se retrouve après une petite coupure musicale, après Moussuté et les Jovens, Marais Montagne.
Les filles, enfin, voyons, les filles, la spécialité de la Ciotat.
Allez,
Pomo!
Pomo!
Pagado lui, Rodegno. Pagado lui, Pandavigno. Nella calvetta del Dio. E lo son sistema dei Maxiglio. Pagado lui, si è le pavo. Le carboniere del Calamau. Le pericao del Carpetra. E le filare della città. Ma che montagna, vile campagna. E te la Spagna. Un país, un paradis, como se diz,
como se diz, tatu,
usitania,
ale o cuji suave, se
lo dado le lucea, en un biscate en fontinia, la tagasco de tagasco, e mai lo vedo como año,
oi, oi, oi,
matado lo fundo calci, el comado le musi, la magari de San Cana, e il fila de la susta, ma le montagna, vile campagna, niente la Spagna, e l'Italia, è un país, un paradis, come si dice,
così,
così da Dio. A una visita a Carcassona, fare di schi a Barcellona. Ma vado tu l'usemento, e so che sabe secondo. Mi plai l'uffeggi de Salavo, e il finale della città. Ma che montagna, vile campagna, niente la Spagna, e l'Italia, e sul paese.
Bagno,
eh? Va bene, o bagno, che sprocci le cassine, che sprocci da me.
Avec des CRS, non. À CRS, si est-ce qu'il y a un insultant.
Allez, vas-y, vas-y,
vas-y. Ou si t'as mire. Ouais. Non, excusez-moi, mais j'ai... Non, en fait, j'ai pas du tout la tête à ça, quoi. Je suis désolé de vous le dire, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de...
T'as la tête à rien, t'as tout.
Non, c'est pas ma faute, hein. C'est à cause des événements. On est au courant des événements, quand même.
Pardi.
Des événements de la Ciotat, oui, bien sûr, oui. Le blocus français autour de la Ciotat, vous êtes au courant? Nos femmes sont maigres.
Toutes.
Et bien sûr, nos enfants sont pâles.
Tous.
Tout à l'heure, nous allons vendre des t-shirts et des disques. Et bien, tout l'argent que vous donnerez, il ira directement dans nos fouilleuses. Voilà. C'est...
Soyez cools.
Yes, et nous, on est de retour toujours sur Radio Tchourmo, sur Radio Galère 88.4 FM, Radio Tchourmo, la radio des gens qui font bouger ton quartier, et même jusqu'au Mans, vous avez entendu.
Aïe,
aïe, aïe. Alors, on continue avec le retour de la chronique lecture du mois. Ce mois-ci, on va vous parler du livre de Vérane Frediani, Marseille cuisine le monde. Les cuisines de Marseille par les Marseillais. Alors, moi j'avais envie de vous parler de ce livre.
Mais trop, parce que quand tu me l'as présenté, franchement, en plus, et vous ne l'avez pas sous les yeux, mais il est super beau, quoi.
Ouais, c'est déjà ben, c'est un
vous gros. L'achetez, vous l'achetez et vous l'encadrez, voilà.
Voilà. Non, déjà, c'est un gros volume, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est
non, ce... C'est pas vrai, il est très bien.
Voilà. Qu'est-ce que c'est ce livre? En fait, tout simplement, c'est des portraits de restaurateurs et de restaurants dans Marseille. Et ça présente un peu tout un tas de différentes cuisines. Alors
on
déjà,
y est pas. Et on n'y est pas.
On n'y est pas. Putain, quand même.
C'est dommage. Voilà. Ça ne pas quand même nos best-sellers Wyeh Finzerbe.
Voilà. Pour ceux qui ont connu les Wyeh Finzerbe des Cagno Bolégan,
De la tchourme entière.
De la tchourme entière, c'est vrai. Ouais. Bon, on n'est pas au niveau des Wyeh Finzerbe, mais c'est pas trop mal quand même.
C'est vrai. Alors, c'est juste en dessous.
Voilà, juste en dessous. Niveau professionnalisme, nous on met quand même la barre haute, tu vois.
Oui. Dans l'impression déjà.
Dans l'impression et dans la graffeuse.
Dans la graffeuse, beaucoup plus beau. C'est graphique, nous.
Bon, ça va les gars, c'est bon. On peut repasser le sujet.
On reprend le livre.
Ouais, voilà, il me déconcentre là. Bon, en plus, je me suis même pas mis le minuteur, j'ai même pas le temps. Bref.
C'est à la voix.
C'est tout au talent.
Est-ce qu'on en a again. C'est pas sûr.
Non, voilà. Donc déjà quelques mots sur l'autrice. Donc c'est une réalisatrice, autrice, journaliste et photographe marseillaise.
Ayoli.
Voilà, beaucoup de casquettes. Alors elle à la base, elle a commencé dans le journalisme et dans la critique cinématographique. Elle a notamment participé à la création de sociétés de distribution, de festivals de films amateurs, ce genre de choses.
Allez.
Ouais. non, c'est. Moi, je suis sûr que tu t'entendrais très bien avec elle en plus.
Tu l'as connue?
Non.
Bon, ben alors.
Putain, mais quelle joie de.
Ah, elle est en forme aujourd'hui, hein, franchement.
C'est mon éventuel auditeur qu'on ne cautionne aucun de ses commentaires.
On arrête tes conneries.
Allez, coupez-lui le micro là, c'est bon, on vient maintenant.
C'est fait.
Donc, après avoir passé le début de sa carrière, on va dire vraiment centré sur le journalisme cinématographique, elle se déplace petit à petit sur le journalisme, on va dire culinaire. Elle réalise notamment plusieurs documentaires. Sur la gastronomie et elle publie aussi deux livres sur des portraits de chefs féminins dans le monde entier.
Et ça c'est bien ça.
Et c'est pas mal parce que souvent la cuisine c'est un monde de femmes mais dès qu'il s'agit d'avoir des prix c'est pour les mecs.
On est d'accord.
Voilà donc c'est un peu une petite hypocrisie quand même. Hein. Et enfin ce livre Marseille cuisine le monde qui était donc la première édition est sorti en 2021 qui depuis a été réédité et complété. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est cet ouvrage ? Cet ouvrage, c'est centré autour de 60 portraits de chefs, de restaurateurs, des fois même de dégains qui ont eu envie de monter leur boutique et pour partager leur
cuisine.
Et parfois
de gens un peu plus célèbres, parce que je me suis permise de le feuilleter un petit peu, qui aiment Marseille, qui en donnent aussi leur vision, voilà, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Et c'est ça qui est aussi un peu... Qui m'a plu moi aussi dans ce livre, c'est-à-dire que c'est un livre sur les restos et les cuisines en ce moment du moment et qui sont populaires à Marseille, mais on n'est pas du tout dans une image figée de cuisine traditionnaliste et passéiste, quoi.
Pas du tout, parce qu'elle fait même au début du livre la genèse un petit peu de Marseille Cuisine Le Monde, des restos à Marseille, de la gastronomie à Marseille, de la gastronomie à Marseille qui est Marseille autour du monde, hein, parce que le melting pot marseillais avec la cuisine du monde entier, mais qui se mangeait chez les gens au départ et pas dans les restaurants en fait, hein, forcément.
C'est ça, parce que c'est ça qui est fou quand même, c'est que il y a le monde entier à Marseille et c'est pas nouveau ça, on va dire.
Ah,
c'est vraiment dans l'ADN de la ville depuis des siècles et des siècles. Mais comme tu dis, ça restait cantonné à la sphère familiale.
Tout à fait.
Je veux dire, à Marseille, les gens ne le savent pas, mais il y a la plus grosse communauté grecque hors de Grèce à Marseille. Il y a la plus grosse communauté arménienne hors d'Arménie à Marseille. La deuxième plus grosse communauté juive, c'est à Marseille.
À jamais les premiers. Hein.
La diaspora algérienne, marocaine, tunisienne, les Comores. Je veux dire, le monde entier est à Marseille. Mmh. Et cet ouvrage, moi, j'aime beaucoup parce qu'il parle justement des cuisines. Et ça met en avant ce côté, comme tu disais, melting pot.
Tout à fait, et vraiment avec, on y parle de ces quartiers aussi, de ces quartiers historiques et de ces familles aussi, pas que des vitrines et des cuisines, j'ai envie de dire.
Tout à fait, il n'y a pas ce côté, moi ce qui m'a plu, c'est que j'avais peur que ça passe un peu dans un côté un petit peu bobo, nouvelle mode de resto et de je sais pas quoi. Non, en fait, c'est les cuisines...
Chaton, ça sent pas trop la graine, tu peux l'ouvrir le livre, il est trop beau.
Voilà.
Non, mais de toute façon, s'il y avait marqué cuisine pour les végétariens, j'ai pas ouvert.
Voilà, et moi le deuxième truc qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il y a énormément aussi de visuels et de photos en fait. Et c'est pas genre des photos de, voilà, comme je dis, de classiques, c'est des photos de vie en fait à Marseille.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup de photos à pouvoir l'acheter à Lyon de la Ciotat alors.
Voilà.
C'est bientôt son anniversaire.
C'est ça, exactement. Donc pour son anniversaire, on a décidé, on va acheter le.
Exactement. Et c'est là que on reconnaît quand même. Et voilà. Et je suis tout à fait d'accord. C'est là qu'on reconnaît aussi le passé un peu de l'auteur. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avant. C'est-à-dire que c'est un bel ouvrage quand même. Et on a des vrais portraits qui nous présentent les personnes et comment ils sont. Enfin, c'est vraiment. Les photos, on voit leur cuisine, on voit les derrière, tout ça. Non, c'est vraiment, moi on me l'a offert là pendant les fêtes et ça a vraiment été un gros coup de cœur et c'est pour ça que je voulais en parler.
Bah, c'est mentionné en couverture, hein, Marseille cuisine le monde. Donc oui, les cuisines de Marseille par les Marseillais, mais les adresses, les bons plans et les quartiers fameux, quoi.
C'est ça.
Et ça va jusqu'au petit, excusez-moi le terme, le petit boui-boui où on ne soupçonne
quartier,
pas
ouais.
De quartier, où on ne soupçonne pas qu'on va se
casser le vide.
Se casser le ventre, en fait, avec des chefs fabuleux, quoi, tu vois.
Mais c'est ça, et voilà. Alors, on ne peut pas vous parler de tout le monde, parce qu'il y a tellement de... Voilà, on vous dit, il y a plus de 60 portraits, 80 recettes, des connus, des pas connus. Ensuite, le livre...
Que des vrais gens dedans.
Que des vrais gens. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que le livre, en fait, il est divisé en différents chapitres. Tu as le chapitre sur les viandes, les poissons, les desserts...
Et légumes
vegan, voilà. Mais quand même, il y a un chapitre entier sur la pizza, quand même.
Ah, mais quand on le dit que la pizza, c'est une spécialité de Marseille.
Mais
la
oui.
La pizza.
Mais oui. Mais. Vous voyez, moi, vous savez, moi, je vous racontais, moi, j'ai des amis en dehors de Marseille. Quand je leur raconte que les meilleures pizzas du monde, c'est à Marseille, ils pensent que je fais un peu le ronflant, le Marseillais casse-couille qui veut se raconter. Mais j'exagère rien du tout. Les meilleures pizzas, elles sont à Marseille.
Mais t'as qu'à pas leur parler, et puis voilà.
Écoute,
ou t'as qu'à les faire goûter la prochaine fois que tu montes.
Voilà,
vas-y, prends
il faut les éduquer, exactement.
La bonne pizza de Marseille.
Exactement. Ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est la justification qu'elle donne en fait au sommaire de ce bouquin, et on revient un peu à ce que disait Marie-Ange tout à l'heure, c'est-à-dire que elle, l'autrice, elle a grandi à Marseille, et elle disait qu'elle avait l'impression que pendant très longtemps, on avait un peu toujours les mêmes restos à Marseille, italien pizza, marseillais poisson, et puis voilà quoi. Et qu'elle s'est rendue compte que depuis quelques années, justement, on voit apparaître des restos arméniens, comoréens, libanais beaucoup. Voilà, et qu'elle voulait justement documenter ça. Et elle a dedans
on n'avait pas traîné dans le même quartier alors.
Et elle a dedans une. Merci, je veux même pas réagir, tu sais quoi. Et elle a dedans une superbe belle formule qui, moi, me plaît. Marseille fabrique des Marseillais. Et elle est tellement vraie, cette formule.
Ça, c'est une belle phrase, par contre.
Et oui, parce que tu sois né ici ou pas, que tes parents ils soient nés ici ou pas, on s'en bat les couilles, excusez mon langage.
Tout à fait.
Voilà. Comme disait Félix Castan, on n'est pas le produit d'un seul, on est le produit de l'action que l'on y mène.
Aïe, aïe.
Et cette phrase, elle n'est pas vide de sens. Et dans Marseille, elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie. Et de parler des cuisines marseillaises et pas de la cuisine marseillaise.
Et de l'incroyable créativité qu'il y a ici, en fait. Quoi.
Mais tellement. Mais tellement.
Elle est sur scène, elle est aussi à table, en fait.
Tout à fait.
On parlait de susciter l'envie. Ça suscite l'envie de manger.
Ah ouais,
là, franchement, tu vois les photos, moi j'ai l'eau à la bouche. Hein.
D'ailleurs, avant d'enregistrer, on s'est fait la pizza parce que sinon on n'aurait pas pu mener l'émission à son terme.
Voilà.
Voilà.
Et alors qu'on était tous d'accord, on a débattu pendant une demi-heure sur le fait que les meilleures pizzas étaient à Marseille.
Non, on n'a pas débattu. On s'est auto-congratulé.
Exactement.
C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'opposants.
Il n'y a pas d'opposants. Donc il n'y a pas de débat. On s'est auto-congratulé sur la d'autres pizzas.
Exactement.
Voilà.
Voilà. Ah non.
Voilà. Mais bon, allez, va.
Dans tous les cas, moi, ce que je. Juste, et après, je te redonne la parole. Ouais, ce que je veux dire, c'est que dans ce livre, oui, vous allez avoir des grands chefs, des gens que vous connaissez, mais vous allez découvrir des coins, même en étant marseillais depuis bien longtemps, des coins dont vous soupçonnez pas l'existence, et vous allez découvrir les tables où vous allez avoir envie d'aller derrière. Hein,
tout à fait, tout à fait. Vraiment, non. Vraiment, il y a plein de trucs. Et comme je vous dis, on ne peut pas vous parler de tout le monde parce qu'il y en a trop et puis ce serait du favoritisme. Mais il y en a un seul dont on a envie de vous parler. Et je pense que si vous nous suivez, vous devez le connaître. C'est l'après-m. Vous devez connaître, c'est ce McDo dans les quartiers nord qui a été reconverti en fait en snack fast-food solidaire, on pourrait dire.
Tout à fait.
Voilà. Pourquoi l'après-m ? Ben, c'est un jeu de mots sur après McDo, parce qu'ils ont gardé le M des locaux, mais en même temps aussi sur après la misère. Parce qu'en fait, c'est ça l'après-m, c'est que c'est aussi bien un fast-food, mais c'est aussi un lieu de distribution alimentaire. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire et peuvent recevoir, qui sont dans une situation de précarité alimentaire, peuvent s'inscrire et recevoir des paniers repas. Et vous, si vous y allez juste pour manger, si vous n'êtes pas bénéficiaire, dans votre menu, il y a une partie de votre menu qui servira à payer des paniers alimentaires pour des familles, pour des personnes âgées isolées, pour des femmes seules qui sont en galère parce que on le voit tous que le coût de la vie augmente. Et donc moi j'avais envie de mettre en valeur l'après-m parce que c'est vraiment une action et un lieu moi qui me plaît énormément.
Et c'est pas que ça parce que moi j'ai envie, enfin moi c'est la syndicaliste là qui reprend le micro.
Mais vas-y.
C'est l'après-m aussi, je veux dire c'est l'après-m, c'est comment je veux dire comment ben on garde en fait ce qui était l'endroit où on travaillait et comment on garde l'emploi là où il est pour les gens qui bossent, qui sont dans le bassin d'emploi là et comment on fait en fait et quelle vision on a après justement de faire travailler les gens, comment on les fait travailler. Enfin je veux dire je pense que les gens qui ont continué à bosser à l'après-m derrière, ils ont pas bossé dans les mêmes conditions, ils ont pas bossé les mêmes produits et ils servent pas la même chose à table, donc en plus de faire du tu vois de l'action solidaire derrière, il y a aussi repenser en fait
tout à fait
le travail
et l'outil de travail.
Et l'outil de travail et se le réapproprier. Et ça, rien que pour ça, fait voilà quoi. Moi, voilà, je veux dire, je suis super fière qu'il y ait des gens comme ça voilà, à Marseille. Et,
tout à fait.
Et c'est ce genre de truc, mais ça nourrit en fait. Ça nourrit toutes les luttes, tu vois.
Exactement. Donc vraiment, moi, je vous conseille l'après-m. En plus, c'est un lieu culturel parce qu'ils ne se contentent pas de faire juste fast-food. Ils font des expos de graffeurs, ils font des concerts, ils font des soirées. Non, vraiment, moi, je peux que vous conseiller ce lieu. C'est vraiment pas cher en plus pour manger. Franchement.
Et c'est mieux que McDo, c'est meilleur.
C'est franchement meilleur que McDo. Tu savais qu'il y avait un burger, c'était Paseda ?
Ah, je savais pas, non.
Tu savais pas ? Ils ont un burger sur leur menu. C'est Paseda, de Petit Nice Paseda, qui leur a fait la recette, en fait.
Ben, écoute, Ayoli sur lui. Et puis, allez manger, voilà. Vous n'avez pas les moyens d'aller au Paseda. Si, comme moi, vous n'avez pas les moyens d'aller au Paseda, vous avez les moyens d'aller à l'après-m, allez-y.
Et c'est pour la bonne cause. Voilà. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce très bel ouvrage. On répète, Marseille cuisine le monde aux éditions aux éditions de la Martinière par Véran Frediani. Moi, je vous conseille la nouvelle édition là qui est sortie en 2024. C'est un très beau livre. En plus, il est fait sur du papier recyclé, donc il n'y a même pas la mauvaise conscience de polluer. Donc vraiment, moi, je vous conseille. Et en plus, elle ne nous a pas payé. Elle ne sait même pas qu'on fait la chronique sur son livre.
Voilà, c'est gratuit.
Ça a toujours été le cas.
Oui, voilà. Non, mais je veux dire, c'est même pas de la promo, quoi. Hein. Après, si elle veut nous envoyer des sous, oui.
Non, mais même si elle veut déjà venir nous voir.
Oui, si elle veut venir nous voir, avec plaisir. Hein. On lance l'appel.
Ça, la prochaine fois. Moi, je suis pour. Après l'émission, je vous propose un livre et je suis pour qu'on rencontre l'auteur. Mais on en parlera tout à l'heure.
Allez, voilà.
Allez, petit suspense.
Petit suspense. Yes. Donc, ça finit pour cette chronique lecture du mois. On se retrouve après Moresque à la Manja.
Évidemment.
Ana manja o bari, ana manja in sing. Ana manja o bari, peya prebe rembe.
Bye.
Et de retour toujours sur Radio Tchourmo, sur Radio Galère 88.4 FM. On est là pour cette dernière séquence de l'émission où on va faire petit retour de la chronique histoire, vu qu'on l'a pas trop fait. On va vous parler donc de la tradition de la galette des rois en Provence.
Quelle galette ?
Et ouais, il faut pas dire galette, je sais. La galette des rois, c'est une expression de parisien, ça, hein. En Provence.
Comme la pizza à l'ananas.
Voilà. La pizza chou-fleur, je sais pas quoi, là. Non, nous, on mange le gâteau des rois. Parce qu'en fait, la galette, c'est la frangipane, et c'est pas un truc que d'ici, hein. Voilà.
Pourtant, à Paris, il n'y a pas tellement des amandes.
Non, mais, par contre, j'ai des fèves.
Ça, des grosses fèves, il y en a.
Et des truffes, alors.
C'est même pas de là-bas, la truffe.
Et non, c'est même pas non plus de là-bas, au fond. Ouais. Et non, parce qu'on plaisante, Mais oui, en Provence et de manière générale dans toutes les régions de Languedoc, la tradition pour l'épiphanie, c'est plutôt une brioche avec un assortiment de fruits confits et les gros morceaux de sucre.
Vous savez, juste après Noël, là, quand...
On a la diète, là. D'ailleurs, toi, tu dis plutôt la couronne ou le gâteau des rois ?
Moi, je dis le gâteau des rois, généralement.
Moi aussi, le gâteau des rois.
Ouais. Mais il y en a qui disent couronne aussi. Hein. Ouais, moi, j'ai déjà entendu la couronne
quand
aussi.
Quand tu
vas
à la boulangerie, ouais, des fois, tu as la couronne. Ouais.
C'est ça,
Quand tu meurs, ils appellent ça le gâteau fleuri.
Mais alors, non, mais vous savez pourquoi la couronne ? Non, mais vous savez pourquoi la couronne ?
Non, vas-y, dis-moi pourquoi.
Parce qu'en fait, les fruits confits sur la brioche,
c'est les pierres précieuses.
C'est censé représenter les pierres précieuses qu'il y a sur une couronne. Donc en fait,
t'as pas fait quand même 4 ans de bac plus 7 pour en histoire pour nous dire des trucs comme ça quand même.
En plus, oui.
Oh putain.
Ah là 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 là. Mais bon, cette brioche ou la couronne, on la retrouve un peu partout dans les pays de Languedoc. À Bordeaux, on appelle ça la couronne bordelaise. À Toulouse, la coque des rois. En Catalogne, les tortelles del rey. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les pays de Languedoc. C'est assez marrant, en fait, d'où vient la distinction gâteau-galette. À la base, la tradition, partout en France, on faisait un gâteau des rois, la brioche. Et en fait, c'est à l'époque de François Ier, il a donné le monopole du gâteau des rois.
François Ier, comme on dit chez nous.
François Ier, qui a donné le monopole du gâteau des rois aux pâtissiers. Et en fait, c'est les boulangers, pour pas se faire niquer, ils ont inventé ce gâteau, cette galette, la frangipane, pour qu'ils aient quand même un truc à vendre pendant l'épiphanie. Parce que sinon, ils se faisaient un peu enculé. Voilà.
On lutte contre toute forme de discrimination.
Voilà, tout à fait.
Monsieur.
Voilà. Alors, d'où ça vient la tradition de manger un gâteau avec une fève à l'épiphanie ? Eh bien, comme beaucoup de traditions chrétiennes, en fait, il y a une origine romaine païenne. Historiquement, en fait, ce gâteau avec une fève à Rome, il était utilisé pour désigner certains représentants du peuple. C'est-à-dire, c'était une sorte de tirage au sort, où en fait, on faisait un gâteau et celui qui avait la fève, eh bien, il était désigné pour siéger dans une assemblée ou pour être juré dans un procès ou quelque chose comme ça. C'était un moyen de faire un tirage au sort et en même temps de nourrir les gens. Donc on faisait ce gâteau avec une fève à l'intérieur et celui qui avait la fève, il était tiré au sort.
Bien. J'apprends quelque chose, non, mais c'est bien. Hein.
Et oui. Et alors pourquoi ce gâteau au moment de l'épiphanie ? Parce qu'à l'époque romaine, ce gâteau avec une fève, ça se faisait pour n'importe quelle occasion, dès qu'il y avait besoin de désigner quelqu'un en fait. Et bien en fait, cette fête ça a été choisi au moment de l'épiphanie dans les premiers temps de l'Église. Je sais pas si vous le savez, mais il y a pas mal de fêtes chrétiennes qui ont été fixées à des dates de fêtes païennes. Par exemple, Noël, bah en fait, c'est une décision de l'empereur Constantin qui décide de mettre Noël au moment des fêtes romaines pour Saturne, qui s'y déroulait au moment du solstice d'hiver.
Donc Jésus ne serait pas né le 21 décembre.
Et non, il est né en été, Jésus. Et on a des preuves historiques et archéologiques, il est né à peu près au milieu de l'été. Voilà. Et en fait, c'est Constantin qui décide de mettre la fête la plus importante des chrétiens au moment de le même jour de la fête la plus importante des païens, en fait, pour faciliter la conversion. En fait, ça faisait que pour les Romains qui se convertissaient au christianisme, ben, il n'y avait pas vraiment de différence. Au solstice d'hiver, on fait une grande fête populaire. Et donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, l'épiphanie, on a décidé de la mettre à la fin de ce cycle de célébration pour Saturne.
Bon, les chrétiens, ils ont pris un peu pour des couillons quand même dans l'histoire.
Un peu, totalement. Sauf qu'on a attribué en fait à la galette une nouvelle valeur. Donc, les rois, à votre avis, on parle de qui ?
Des rois mages.
Et c'est ça, en fait. Celui qui tirait la fève, il était un roi mage pour un jour. Et au fur et à mesure des siècles et des siècles, ensuite, c'était le roi. On le comparait au roi. Donc, on est le roi d'un jour, on tire la fève. Et on retrouve un peu ce côté romain du tirage au sort. C'est-à-dire, celui qui tire la fève, il est tiré au sort pour faire quelque chose. Donc, c'est comme ça.
D'ailleurs, même pour les dates, là, dans ce que tu disais, il n'y a pas eu aussi pour le premier jour de l'année, ça n'a pas été un roi français, peut-être Charles IX, qui aurait changé ça ?
Oui. Alors, je ne sais plus si c'est Charles IX, mais tout à fait. Parce qu'en fait, en fait, il introduit l'année bissextile pour justement que le nouvel an tombe tous les ans au 1er janvier. Parce qu'en fait, le calendrier romain ne prenait pas en compte l'année bissextile. Et en fait, il n'y avait pas assez de jours dans l'année pour avoir un calendrier qui correspondait au mouvement du soleil. Et donc, à cause du calendrier romain, d'année en année, on décalait les saisons. Et donc, c'est un roi français, je ne sais plus lequel, mais tu as peut-être raison, qui justement a rajouté l'année bissextile pour que justement, on n'ait pas ce problème de décalage des saisons.
D'accord.
Et que donc, tous les 4 ans, on rajoute un jour pour que... Bah, en janvier, on soit en hiver. En juillet, on soit en été, tout simplement.
Voilà. Bienvenue sur Radio Culture.
Ah, c'est pas mal, hein.
Et bon, retournons un peu à notre fève, parce qu'on est sur le sujet de la fève.
Ah oui, la fève.
Et oui. Donc, on est vraiment dans cette logique de reprise, en fait, de tradition païenne et de lui donner un goût chrétien, en fait.
Est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle,
mais
ça
totalement.
Moi, je pose la question. Hein.
Mais totalement, totalement. Voilà. Et... ouais, je sais pas si c'est... Ouais, c'est particulier quand même quand on y pense. Hein. Mais, enfin, donc ça, c'est la fête comme elle a été fixée. Ensuite, au fur et à mesure des siècles, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Il y a eu, par contre, des traditions qui sont venues se fixer. Donc, il y a une tradition que vous devez connaître, généralement. Quand on fait la galette des rois, et ça se fait encore beaucoup, on demande au petit dernier d'une famille...
De passer sous la table.
De passer sous la table et de nommer...
Et c'est ça, pour qu'ils ne voient pas les parts, en fait, et qu'ils ne soient pas, on va dire, influencés s'il y a la fève ou le sujet qui dépasse. Et bien ça, c'est une tradition médiévale, en fait,
d'accord,
qui est venue parce que... Et on le reconnaît encore, l'enfant, c'est l'innocence, il est pas encore corrompu, on va dire. Donc ça, c'est une autre tradition qui est venue. Et enfin, la dernière évolution majeure, c'est la question de la fève.
Ouais, on en parle ça.
On en parle. Ça, c'est un de mes chevals de bataille. Vous voyez que j'ai des problèmes très graves dans la vie.
Oui, le sourcil, il s'est froncé là.
C'est ça,
là.
Exactement. Chez nous, en Provence, quand vous achetez un gâteau des rois, on est d'accord, il y a la fève et le sujet.
On est bien d'accord.
Voilà, et la fève, c'est une fève, c'est le légume.
On est d'accord.
Voilà. Et bien, quand vous allez dans le reste
de la
France.
C'est la légumineuse plutôt.
Légumineuse, tout à fait.
Soyons précis.
Ouais, ça va, on est
soyons
pas,
précis.
Non, bon, on le truc. Pas un peu non plus.
Voilà, ouais, non, mais soyons précis.
Ouais, man, c'est des légumineuses.
Voilà. Oh putain, ça me fatigue ça. Bon, allez.
L'urticaire.
Mais qui l'a invité?
On a besoin de lui pour faire le son.
Tout
là.
À fait, je m'invite seul. Ouais, voilà.
Mais alors, je sais pas si vous avez remarqué, et moi ça m'a choqué, quand vous allez dans d'autres régions de France et surtout dans les pays de Languedoc, ils mettent que le sujet, que la figurine,
ouais.
Et en plus, c'est truffe. Ils l'appellent la fève.
C'est ça, ils n'ont rien compris, les gars. Non,
mais c'est en plus, c'est maintenant, quand même, dans 80%, même chez nous, quand on l'achète dans des trucs, dans des grandes chaînes ou des trucs industriels, il n'y a que le sujet.
Le sujet, et il appelle la fève.
Et il appelle
voilà.
La fève.
Voilà. Bon, donc, si vous avez des bonnes adresses de boulangerie voilà. Où on trouve encore la fève,
voilà.
Répandez.
Parce que moi, je suis désolé, la fève, c'est une fève.
Ouais.
Alors, bon, j'ai pas voulu en rester là. J'ai essayé de trouver des explications pourquoi ils sont. Enfin, je veux dire, ils sont pas tous cons dans le Nord quand même. Pourquoi ils font ça ?
Faites rentrer l'accusé.
Voilà. Donc j'ai trouvé deux hypothèses. La première hypothèse, c'était une année où il y avait un peu des pénuries alimentaires et donc on allait même une fève, on n'allait pas la gâcher. Donc ils ont décidé de l'enlever parce que les gens étaient tellement en galère de nourriture. Et donc ça, on est un peu avant la Révolution française, que les pâtissiers à Paris ont décidé de mettre que le sujet, parce qu'on ne voyait pas gâcher la nourriture. Explication plutôt logique. Mais ensuite, il y en a une autre, moi, qui m'a un peu fait rire, mais j'ai pas trouvé de preuves. Donc si ça se trouve, c'est vrai, mais j'ai pas trouvé de preuves tangibles. Apparemment, c'est qu'un gus, il s'est étouffé avec la fève, Et du coup, on l'a enlevé pour éviter que d'autres personnes s'étouffent.
Ouais, bah, enfin, le sujet voilà. est aussi gros. Hein.
Et voilà,
et
c'est
la
ça.
Porcelaine, c'est pas plus digeste.
Mais voilà.
Et puis en plus, quand ils te mettent le sujet, il fait pas 26 cm.
Mais c'est ça. Mais voilà, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quoi?
Non, ça c'est une information de merde.
Parce que tu peux autant t'étouffer avec
non,
le
alors
sujet.
Ça c'est sûr et certain, c'est pas vrai. C'est une merde. Voilà, c'est comme quand on te dit mais... que le salmon de Marseille vient de Toulon, c'est une connerie.
Mais non,
voilà.
Non, mais moi ça m'a quand même pas bien fait rire parce que j'ai imaginé tous les boulangers, les pâtissiers se casser la tête, arrêter de faire la fève parce que t'as un tremblant qui s'est étouffé avec.
Oui, surtout qu'ils te mettent un truc qui est aussi gros.
Il est aussi gros en plus, voilà. Quoi. Et encore plus, je pense.
Ouais, ouais, à mon avis.
Il y a plus moyen de s'étouffer avec le sujet qu'avec une fève. Hein.
Ah, ouais, moi, je pense qu'il vaut mieux caguer la fève que le sujet.
C'est sûr.
Voilà, je pense que c'est plus digeste.
C'était l'instant poésie.
Voilà, donc voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de la galette et j'espère que vous continuerez à acheter des brioches des rois avec nos beaux fruits confits qui ont la fève et le sujet. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi pour vous ? Parce que chez nous, dans ma famille, on disait celui qui a la fève, c'est le roi et celui qui a le sujet, il paye l'an prochain.
Alors oui, moi j'ai déjà entendu ça.
Ouais.
Moi je sais que Chaton une année il s'est retrouvé à payer.
Ouais, j'ai payé 25 couronnes, mais je l'avais tous les jours. Je pense qu'on m'a couillonné hein, d'ailleurs. Mais bon, mais c'est
mais
comme
ouais,
ça.
Ouais, il y a une notion de ouais qui a payé machin, etc.
C'est ça.
Et après, moi j'ai des souvenirs un peu plus anciens où tu avais le roi et la reine. Ouais. Tu vois, j'étais
vrai.
Plus petite. Alors après, voilà, est-ce que c'était pour faire gentil et
ouais,
la
je pense
les
que
enfants.
c'était ça plutôt.
Je sais pas. Mais
voilà,
voilà.
Je pense pas que ce soit une tradition. Je pense plus que c'est un truc enfantin.
Pour faire plaisir à tout
voilà.
le monde, ouais.
Voilà, il y avait la fille.
Et puis
avait
moi, je me rappelle que bizarrement, même quand on attribuait les parts au hasard, sans voir, etc., qu'il y avait une certaine complicité des adultes, parce que bien souvent, c'était les enfants quand même qui se retrouvaient avec la fève et le souci, quand même.
Oui, ouais, c'est vrai.
Voilà. Donc voilà, vous connaissez cette petite histoire.
On s'adormira moins con.
Vous serez,
ben ouais.
Je dirais même, vous serez moins fève ce soir. Là.
Voilà, exactement.
Superbe. On finit sur ces mots là.
Eh ben écoute, voilà. On vous rappelle évidemment les copains toujours la cagnotte pour le collectif Les Filmés de Louguit. Vous pouvez la trouver sur la page Facebook de Radio Tchourmeau.
T'es un grand homme, Antoine.
Bien sûr qu'il faut le rappeler. Donnez leur.
Ouais, tu passeras à donner toi aussi alors.
Moi j'ai donné.
Non.
Ah ouais putain non je vais donner. Bon je vais donner ce soir
tu vois. Je te l'ai même renvoyé un message à l'instant.
Ah ben voilà c'est pour ça d'accord. En tout cas merci beaucoup
l'émission sans filtre.
Ouais voilà.
Allez.
Bon en tout cas.
Bon, libre.
Ouais bon on n'est plus à ça près hein de toute façon là.
Bon on salue Lise.
Merci beaucoup les amis.
Ben,
grand Ayoli, on vous souhaite encore une très belle année 2025.
Ayoli à tous.
Et nous, on se quitte en musique avec Toco Blaz, Comeback au quartier.
Ayoli,
Ayoli.
C'est mon comeback au quartier. Putain, ce qu'on m'avait tant manqué. Je suis heureux de le retrouver. Je me sens enfin libéré. C'est mon comeback au quartier. Heureux les gars de vous retrouver. Quelque chose en moi s'est rallumé. On se met bien, c'est ma tournée. Elle m'a dit, prends tes affaires, retourne chez ta mère. C'est sur le palier, prends tout et reprends la mer. C'est pas l'hôtel ou toi une garçonnière. Je ne suis pas ta lingère, encore moins ta cuisinière. T'as passé de l'âge de jouer de l'été pochette. Maintenant ça rentre au bercail parce que monsieur est fauché. Tu regrettes tes écarts, mais là c'est trop tard. Ramasse tes caleçons, va rejoindre le club des connards. Au quartier, oui je rentre au quartier. Je suis heureux de le retrouver. Je me sens enfin libéré. C'est mon comeback au quartier. Heureux les gars de vous retrouver. Quelque chose en moi s'est rallumé. On se met bien, c'est ma tournée. Ils m'ont dit, et Toco Blaz, tu es libérable. Range ton partage et surtout prends-nous toutes les armes. Coup de pied au cul pour toi, c'est hors de la base. Mais qu'est-ce qui t'a pris de tirer sur ton caporal, chef? Le chef fait devenir le grand chef. Des milliers de petits chefs prêts à donner leurs fesses. Le cul se lèche pour une place aux messes. Bon vent jeunesse. C'est mon comeback au quartier. Putain, ce qu'on m'avait tant manqué. Je suis heureux de le retrouver. Je me sens enfin libéré. C'est mon comeback au quartier. heureux les gars de vous retrouver. Quelque chose en moi s'est rallumé. On se met bien, c'est ma tournée. Le coach m'a dit on te conservera pas. C'est le grand choc, l'aventure s'arrête là. Quand espoir du quartier, des illusions d'un jeune crack. Le meilleur au milieu, en défense, en attaque. Trop sacrifice, ressort le cœur de quitter ma région. Masquer son chagrin, la douleur, surmonter la pression. Frère ou adversaire, c'est la compétition. J'ai perdu la passion. C'est mon temps, pas qu'au quartier. Allumé, on se met bien, c'est ma tournée.